C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur et ancien directeur du Monde, Jean-Marie Colombani. Bonsoir à vous.
Bonsoir Roselyne.
On connaît les brouillards britanniques, on connaît encore mieux les brouillards français, mais il faut savoir attendre qu'ils se dissipent. Les socialistes, après avoir travaillé en férocité et dans un long et laborieux rapport de force avec François Bayrou, ils ont décidé de ne pas voter la censure après avoir obtenu des avancées, mais préviennent, la censure est possible à tout moment. Alors que la France insoumise, les écologistes et les communistes s'apprêtent à la voter. Le gouvernement Bayrou est-il sauvé pour quelques semaines, quelques mois? Et quelles conséquences pour le PS et son alliance avec le NFP? On en parle avec nos invités. Catherine Tricot, directrice de la revue Regard. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Laurent Geoffrin, directeur du journal Point Info.
Oui.
Général, vous ne l'êtes pas encore, ça va peut-être venir.
J'espère.
Et Stéphane Vernet, directeur de la rédaction parisienne de Ouest France. Donc, bonsoir à vous tous. Et en fin d'émission, Véronique Reissoult reviendra dans sa chronique sur les réseaux, sur les réactions des internautes au discours de politique générale de François Bayrou. Et les socialistes, donc, ont obtenu... la suppression de 4000 postes dans l'éducation nationale, la taxe sur les hauts revenus, le non-passage
renonciation.
Excusez-moi. Je ne suis pas très concentré aujourd'hui. Merci, mais je vois que vous écoutez en revanche.
On suit.
Le non-passage de 1 à 3 jours de carence, donc ok, ce n'est pas Broadway, mais c'est déjà ça. Pour l'instant, le PS ne votera pas, mais ce n'est pas figé. Il garde la dragée haute à François Bayrou. On écoute Olivier Faure.
En ne censurant pas, dès vos premiers pas, votre gouvernement. Monsieur le Premier ministre, vous l'avez compris, nous ne vous accordons pas pour autant notre confiance. Mais nous avons choisi de ne pas pratiquer la politique du pire parce qu'elle peut conduire à la pire des politiques, c'est-à-dire l'arrivée de l'extrême droite. C'est la raison pour laquelle nous ne vous censurerons pas, monsieur le Premier ministre.
Merci beaucoup, monsieur le député.
Laurent, peut-être un mot. Donc, ce n'est pas un accord de non-censure, stricto sensu, comme ça avait été décidé auparavant, mais c'est quoi? On est typiquement dans un rapport de force et à chaque fois, il faudra remettre l'ouvrage sur le métier.
Oui, mais avant, il faut dire un seul mot, enfin.
Oui.
Parce que là, pour la première fois, clairement, les socialistes pensent par eux-mêmes et non pas en fonction des oukases que leur décoche en permanence Mélenchon. Donc, c'est une avancée politique, une avancée sociale, économique, on peut discuter, mais en tout cas, sur le plan politique, c'est une avancée. Alors, les gens disent, oui, mais alors, il n'y a plus de NFP. On verra, ce n'est pas la question. Et la France insoumise, évidemment, va se répondre en imprécation, comme d'habitude.
Oui, j'ai
même entendu un truc incroyable. Il y en a un qui a dit, si les socialistes ne votent pas la censure, c'est la collaboration. La collaboration. Mmh. La collaboration, ça veut dire quoi? Ça veut dire Macron, c'est Hitler, le Bayrou, c'est Pétain, etc., etc. Enfin, c'est des gens qui disent n'importe quoi. Du moment que c'est agressif, du moment que c'est méchant, etc. Et donc, je pense que d'ailleurs, ce que disent ces gens-là, désormais, n'a plus grande importance. Parce que dès lors que les socialistes ne votent pas la censure, il n'y a plus de questions. Après, il y a un jeu normal entre l'opposition...
Ouais.
Et la majorité, et on continue, et l'opposition essaye d'obtenir des concessions importantes et qui sont utiles pour les gens. Et c'est ce qui vient de se produire. C'est-à-dire qu'on va rediscuter du fond de la réforme des retraites avec les syndicats, avec le patronat. Et ça veut dire que les 4000 profs, ben, il y aura 4000 profs de plus par rapport à ce qui était prévu.
Ouais.
Et ça veut dire que les jours de carence pour les fonctionnaires ont été réduits. Enfin, il y a eu des avancées. Ça ne veut pas dire que c'est le budget que la gauche aurait souhaité, mais la gauche, elle n'est pas au gouvernement, elle est dans l'opposition. Donc, c'est la logique de parlementaire, quand il n'y a pas de majorité, que d'essayer d'obtenir des concessions. Ils les ont obtenues, donc ils ne votent pas la censure. C'est la logique des choses.
Et au-delà de ça, Jean-Marie, les socialistes sont-ils aussi sur un chemin de rédemption en admettant qu'ils ne veulent pas être aussi un élément de déstabilisation, ne pas laisser jouer le RN comme des maîtres chanteurs, c'est leur expression. Et en même temps, c'est l'occasion de se détacher effectivement de la France insoumise. Donc on peut dire en quelque sorte que c'est du donnant-donnant pour chacun et du gagnant-gagnant.
Oui, simple, il faut se souvenir que dans la phase précédente, c'est le Rassemblement national qui est l'arbitre de la situation, puisque le Premier ministre de l'époque, Michel Barnier, cherche à obtenir l'approbation ou la non-censure du Rassemblement national, fait des concessions qui seront d'ailleurs des concessions inutiles. Et c'est le pivot donc de la vie politique française devient le Rassemblement national. Là, le Parti socialiste a enfin compris que sans lui, il n'y a pas de censure possible. Et donc, il se replace en position centrale, en quelque sorte, puisque le sort du gouvernement Bayrou va dépendre de l'attitude des députés socialistes, de fait. Et donc, il donne à François Bayrou le permis d'avancer, en quelque sorte. Ce qui est une avancée pour les socialistes eux-mêmes, parce que ça les rapproche de ce qui fait leur ADN, c'est-à-dire quand même de rester un parti qui réfléchit en termes de responsabilité et de gouvernement. Ce que ne voulaient pas faire ceux qui sont toujours partisans du rapprochement avec Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est aussi une étape sur la voie de la séparation d'avec Jean-Luc Mélenchon et d'avec la France insoumise. Alors beaucoup diront, oui, mais quand les élections se repointeront, on verra bien que la pression de la France insoumise sera de nouveau forte et ramènera les socialistes, etc. Ce n'est pas évident, d'une part, ce n'est absolument pas évident, surtout que ce sont les municipales qui arrivent et qui vont déterminer tout cela. Mais c'est surtout pour comme le disait Laurent tout à l'heure, c'est une vraie marque de prise de conscience par les socialistes qu'ils doivent se détacher de la subordination à la France insoumise.
Catherine, vous disiez la semaine dernière sur ce même plateau, si les socialistes effectivement se défont du NFP, ils devront entraîner avec eux, pour être beaucoup plus crédibles, les communistes et les écologistes. Sinon, ils donneront une victoire, une sorte de victoire à Mélenchon, ce que vous disiez la semaine dernière. Et le tweet de Mélenchon aujourd'hui, c'est « Le PS fracture le NFP, donc le nouveau Front populaire, mais il capitule seul ». On en revient sur les mots choisis par Mélenchon. Les trois autres groupes votent la censure. Donc c'est une fois encore dire « Nous, on est... on résiste, c'est ce que vous aviez un peu prédit la semaine dernière.
Oui, c'est un peu l'analyse que je faisais la semaine dernière, mais je pense souvent que c'est à la fin du bal qu'on paye l'orchestre, et que là, nous ne sommes que dans les premiers temps de la valse, et qu'on va voir comment ça se termine. Parce que si Jean-Luc Mélenchon est si content de mettre en évidence la capitulation, la trahison, et tous les mots épouvantables qu'il aligne, c'est parce qu'il pense que ça lui sert politiquement. Et pourquoi il pense que ça lui sert politiquement? Pour la raison que je disais la dernière fois, c'est comment les électeurs de gauche vont apprécier le fait d'aujourd'hui, mais éventuellement, ce que je voudrais déjà dire, c'est que le fait d'aujourd'hui ne présume pas de ce qui se passera dans un mois et demi. Mais si on avait quelque chose qui se structurait dans une non-censure des socialistes, comme l'a dit Olivier Faure, ou comme le laisse entendre Olivier Faure en disant qu'il ne veut pas faire la politique du pire, qui serait l'accession au pouvoir de Marine Le Pen. Donc ça donne à voir un peu une ligne politique qui serait « il ne faut pas censurer ». C'est pas génial ce qu'il nous a accordé, mais c'est pas sur ça qu'il se dit. C'est pas le cœur de son argument, c'est pas de dire qu'on a obtenu des choses. C'est de dire « il ne faut pas que Marine Le Pen accède au pouvoir, donc on va laisser François Bayrou faire sa politique ». Comment la gauche va le percevoir? Et la gauche, c'est les électeurs de gauche dans leur diversité. Il y a ceux qui sont acquis à Jean-Luc Mélenchon, c'est certain. Mais il y a tout un tas d'électeurs qui ne sont pas inféodés à Jean-Luc Mélenchon, qui sont proches des socialistes, qui sont proches des communistes, proches des écologistes. Enfin voilà, c'est cette espèce de mouvance qui se revendique de la gauche, mais qui veut une gauche quand même, qui mène des combats sociaux, qui marque...
Mais c'est ce qui se passe là.
Ah ben ça c'est pas sûr. C'est ça que je veux dire. C'est que comment ça va être apprécié. C'est-à-dire qu'il y a ce que les appareils disent, il y a les choix qu'ils font, mais comment ça va être interprété. Est-ce que les socialistes vont être confortés ou est-ce qu'ils vont être, d'une certaine manière, contestés par le reste de l'électorat. Est-ce qu'ils vont maintenir leur place dans la gauche ou est-ce qu'ils vont être de nouveau mis au banc de la gauche comme ils l'étaient jusqu'en 2022.
Stéphane Bernet, est-ce que vous avez la réponse?
Oui, enfin, moi j'ai un élément de réponse. Je pense que ça dépendra de ce qui va se passer dans le débat budgétaire, dans le mois qui arrive, en fait. Si les socialistes arrivent à décrocher, en fait, des avancées ou des bougies significatives de la part du gouvernement, qui vont dans leur sens, qui font partie de leurs demandes, qui ont été clairement formulées, alors le Parti Socialiste pourra dire, écoutez, voilà, ça sert à quelque chose. d'être dans une position de responsabilité, de se mettre dans une stratégie à nouveau de parti de gouvernement, comme le disait Jean-Marie tout à l'heure. Et voilà, et on a obtenu des avancées sur alors les 4000 postes, François Bayrou a dit hier qu'il était prêt à y renoncer, dans l'éducation nationale, pardon, les jours de carence, mais il y a aussi toute la...
Le non-déremboursement.
Oui, mais au-delà de ça, il y a aussi toute la thématique de quelle fiscalité dans ce budget. En fait, est-ce qu'il y aura plus de justice sociale, est-ce qu'il y aura une fiscalité adaptée par rapport à, enfin, qui va payer en fait, qui va contribuer à l'effort et sous quelle forme, et puis il y a toute la question de l'évolution de la réforme des retraites. Est-ce qu'on va réussir à réformer la réforme des retraites? Voilà. Donc, si les choses avancent et vont dans le sens des attentes du Parti socialiste, alors les socialistes pourront retourner vers leurs électeurs en disant. Ce choix-là est le bon choix. Moi, ce que je vois à côté de ça, c'est que l'effet de bord, c'est que de facto, le nouveau Front populaire est officiellement mort. Parce que quand vous avez la France insoumise qui menace très clairement en disant ceux qui ne voteront pas la censure s'excluront de fait du nouveau Front populaire et aux prochaines législatives, nous présenterons des candidats dans chacune des circonscriptions des députés concernés. Bah voilà, une fois que vous êtes allé aussi loin dans la menace. Vous ne pouvez pas reculer. Donc voilà.
On croit toujours que c'est Mélenchon qui tient toutes les clés. C'est pas vrai du tout. Si les socialistes présentent des candidats contre les candidats LFI, c'est pareil. C'est un problème pour les gens de LFI. Donc c'est croisé. Mélenchon peut décider de suicider la gauche en disant je présente des candidats contre tout le monde, mais les socialistes vont faire pareil.
Mais il va le faire. Il risque de le faire.
Moi, je pense qu'il va le faire.
Pas sûr du tout.
Mais c'est une machine à perdre, effectivement.
Il n'est pas fou. Il faudrait d'abord qu'il y ait des élections législatives. Pour l'instant, ce n'est pas au gouvernement. En principe, c'est les municipales. Il a déjà dit, avant même qu'il y ait tous ces problèmes, qu'il présenterait des candidats partout contre ceux qui ne lui plaisent pas, en gros.
Apparemment, ça ne fait pas frémir les élus socialistes en question, parce qu'il n'y a pas
problème. Mais ce sont les maires sortants, ils font plutôt bien leur travail.
Est-ce qu'ils sont tous d'accord, les socialistes, de cette stratégie-là, qui est un peu la stratégie...
Apparemment, il y a eu 10 qui étaient contre, tous les autres étaient pour.
Mais les socialistes... La stratégie de François Hollande.
Une chose qu'il faut savoir, et les communistes, et une partie, pas tous, mais une partie des écologistes et les socialistes en ont jusque-là, alors jusque-là de Mélenchon. Parce qu'ils se font insulter en permanence, et ils ont en face d'eux des gens qui sont des cyniques, qui disent une chose et son contraire selon les nécessités tactiques, et des gens avec lesquels ils sont en désaccord profond. Le fait que Mélenchon tolère des candidats antisémites dans ses propres rangs, est un problème pour les socialistes. Les socialistes ont toujours eu la volonté de lutter en priorité contre le racisme et l'antisémitisme, ce qui n'est pas le cas de Mélenchon. C'est un problème. Et sur l'Ukraine, Mélenchon vote contre les armes de l'Ukraine. Il était quasiment pro-Poutine avant la guerre. Après, il était voyant les choses. Il a changé.
Les socialistes
en ont ras-le-bol de ces palénosies incroyables. Ils veulent conquérir une autonomie de pensée. Après, est-ce qu'il y aura des... Parce qu'on dit le NFP est mort, c'est pas vrai du tout. NFP sous sa forme actuelle, peut-être. Mais l'union de la gauche, c'est autre chose.
S'ils mettent des candidats contre les socialistes, ils
perdront des sièges autant que les socialistes.
Ce qu'il faut peut-être avoir comme toile de fond, c'est qu'on est quand même dans... Ce qui est important, c'est le degré de prise de conscience par les socialistes et par d'autres de la gravité de la situation. Si on perd de vue la gravité de la situation, on oublie que le mot d'ordre d'aujourd'hui, c'est le mot stabilité. La stabilité, ça veut dire justement avoir un chemin qui soit crédible, notamment vis-à-vis des partenaires européens, mais pas seulement, vis-à-vis des marchés, vis-à-vis de tout ce que l'on voudra, parce que la dette, parce que le déficit, parce que tout cela. Donc à partir du moment où on refuse la stratégie du chaos, qui est très clairement la stratégie de Jean-Luc Mélenchon, pour provoquer une élection présidentielle anticipée, on fait en sorte que le système se stabilise. Et je pense que c'est ça, profondément, la démarche des socialistes aujourd'hui, qui consiste à admettre que la hiérarchie des problèmes... Il y a évidemment tous les problèmes qu'a soulevé Catherine, mais il n'y a pas que cela. Il y a, au-dessus de cela, je pense, l'impératif de trouver une stabilité. Pourquoi ? Parce que le coût de l'instabilité serait vertigineux. Donc il ne serait plus question là de pouvoir d'achat, de quoi que ce soit d'autre. Ce serait le plongeon pour un pays.
Oui, mais là, pour les uns et les autres, il n'y a eu ni recul, ni instabilité.
L'important, c'est que l'attitude actuelle des socialistes, c'est de laisser penser qu'ils ont enfin compris que la hiérarchie devait être celle-là. La stabilité d'abord, sinon la cinquième sera condamnée au destin de la quatrième. Je veux dire, on voyait la crise venir à ce niveau-là. C'est de cela qu'il faut se persuader et qu'ils doivent être eux-mêmes persuadés. Parce que sinon, ils laissent libre cours à la stratégie du chaos et ainsi de suite. C'est ça qui est
aujourd'hui. Catherine, vous allez répondre, mais je voudrais qu'on écoute justement Manuel Bompard, qui était à la tribune là, pour discuter de la censure. Et il fait l'oiseau de mauvais augure. Écoutez-le.
Et vos heures sont déjà comptées. Vous êtes en CDD. Vous tomberez aujourd'hui ou dans quelques jours. Car l'entêtement du monarque à s'accrocher au pouvoir malgré le vote des Français condamne le pays à une instabilité durable. Seul son départ et le retour aux urnes permettra de sortir le pays de l'impasse dans laquelle il l'a plongé.
Voilà, toujours la même obsession, hein, virer Emmanuel Macron.
Oui, mais remarquez l'argument d'Emmanuel Bompard, c'est celui de la stabilité. En fait, il accuse...
Oui, mais tout le monde prend cet argument-là dans un sens ou dans l'autre.
Non, mais ce que je veux souligner par là, c'est que l'argument de la stabilité est un argument dont tout le monde se prévaut. C'est-à-dire que la France insoumise et ceux qui vont voter...
Oui, mais personne ne parle de la même instabilité.
Je vais développer l'argument pour lequel je pense que votre discours est un discours qui s'entend mais n'est pas un discours de gauche. La gauche pense que... Voilà. Non, mais peu importe, mais sauf que c'est pas peu importe pour les électeurs.
On la laisse finir.
Bien sûr, ce que je voulais dire, c'est que votre argumentation sur la stabilité ne peut pas faire office d'une argumentation valable pour des partis de gauche.
Pourquoi le peuple de gauche, entre guillemets, est-il irresponsable? Pourquoi les gens qui votent à gauche sont-ils incapables de considérer la situation réelle, non seulement du pays, mais la situation, pourquoi les rejeter au point de penser...
Vous êtes un couple infernal, là, tous les deux.
Non, c'est pas ça, c'est que je ne peux pas dire pourquoi je pense...
Mais si.
Je pense que l'instabilité...
Mais laissez-la finir.
La parole est libre.
Non. Elle n'est pas libre, je me débat contre Jean-Marie.
Tu n'as pas le temps.
Mais je vais gagner.
Vous êtes muselée.
Je suis
muselée.
Voilà.
Mais, c'est un scandale.
Non, parce que ce que je pense, c'est que l'instabilité, elle est aujourd'hui politique, mais qu'elle est très profonde dans notre pays parce qu'il n'y a pas d'accord politique sur notre chemin commun. Voilà. Et donc, c'est cette stabilité profonde. Vous savez, c'est cette espèce de rappel, par exemple, quand les communistes disent « ce que nous voulons, c'est un nouvel ordre ». On veut une nouvelle stabilité, c'est-à-dire qu'on veut de nouveaux accords, on veut une nouvelle perspective politique. Et je pense que la gauche se prévaut du changement pour avoir davantage de justice et davantage de stabilité. Oui. Donc, vouloir le maintien de François Bayrou, Premier ministre, avec Emmanuel Macron dans l'équilibre politique, ce n'est pas forcément faire le jeu de la stabilité profonde du pays, où les équilibres politiques, la conviction politique des Français n'est pas acquise. Les Français ne sont pas d'accord avec la politique qui est menée en ce moment, majoritairement.
Stéphane n'a pas beaucoup parlé.
C'est un argument pour campagne présidentielle, celui de Catherine. Parce que sinon, dans la réalité d'aujourd'hui, les problèmes ne sont pas ceux-là. Les problèmes sont d'éviter la catastrophe. Pardon,
c'est bon. Il faut trouver le chemin.
Laissons parler l'Ouest de la France.
Quelle est la question ? Non, moi, je pense qu'il y a deux stratégies à l'œuvre, ou deux tactiques. Il y a une volonté de la France insoumise ou d'une partie de la France insoumise, de Jean-Luc Mélenchon, de provoquer le départ d'Emmanuel Macron pour provoquer des élections anticipées. Mais que nous dit Olivier Faure quand il montre à la tribune ? Il dit, nous, on ne fait pas le choix d'une censure immédiate. parce que on ne veut pas favoriser l'accès de l'extrême droite au pouvoir. Mais pourquoi? Parce qu'on sait aujourd'hui, on ne va pas se mentir, si aujourd'hui il y avait un départ du président de la République, on avait les élections anticipées, si on a un deuxième tour qui oppose Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen au deuxième tour, c'est Marine Le Pen qui gagne. Voilà. On peut prendre le problème dans tous les sens.
C'est pour ça qu'il veut virer Macron.
La réalité, c'est ça. Et donc,
c'est plus probable, en tout cas.
Franchement. Donc voilà, avec un autre casting et une autre temporalité, il peut se passer, ou il est probable qu'il se passe autre chose. Et c'est le choix du Parti Socialiste aujourd'hui, de dire, voilà, cette idée de dire, nous sommes un parti de gouvernement, nous voulons renouer avec le principe du parti de gouvernement, et donc on se montre responsable et on va essayer de construire autre chose. Moi, je pense que c'est un parti pris, qui est intelligent et qui est intelligible, et qui peut être compris par l'ensemble des Français et une grande partie de la gauche. Surtout si, encore une fois, dans les débats qui viennent, il y a un certain nombre de concessions qui sont faites par le Premier ministre. Si François Bayrou ne fait aucune concession sur le budget, si le budget... Pour l'instant, on est au stade où il y a des échanges sur les mots. C'est-à-dire qu'il faut que ça se matérialise très concrètement. Et que les choses soient beaucoup plus précises que ce qui a été évoqué, notamment, excusez-moi, mais mardi, le discours de politique générale à l'Assemblée nationale du Premier ministre était extrêmement vague, très flou. Il manquait plein de choses, il y avait les trous. Il a précisé les choses, choses hier au Sénat.
C'est bizarre, d'ailleurs, pourquoi il a attendu.
Parce que les réactions, il y a peut-être eu un peu beaucoup de pression. Il s'est rendu compte qu'il fallait,
comme il dit.
Il s'est peut-être rendu compte qu'il fallait qu'il lâche un certain nombre de choses. Mais donc les négociations qui s'ouvrent aujourd'hui autour du budget, elles vont être cruciales, elles vont être tendues et elles vont être très importantes, parce que je ne vois pas comment, à l'arrivée, si le budget défendu par François Bayrou est le même peu ou prou que celui qu'avait élaboré Michel Barnier, je ne vois pas comment ceux qui ont dit début décembre, on vote dans l'intérêt des Français parce que ce budget est mauvais pour les Français, etc. On veut les protéger, etc. Et donc on vote la censure et on fait tomber ce gouvernement. Si c'est le même budget, logique, ces mêmes députés vont à nouveau voter la censure.
C'est pas le même budget.
Attendons de voir.
Tu peux lister.
On peut pas non plus changer le budget complètement. On va pas faire 10% de déficit d'un coup. C'est ridicule. Donc le budget a été modifié, ça c'est vrai.
Et la ligne Lombard peut être sur la taxe des hauts revenus.
Ça va se faire, me semble-t-il, non ?
Oui, c'est ce qu'a dit François Bayrou, mais il ne l'a pas dit dans son discours.
Mais ça a été précisé par Bercy.
Qu'ils le disent. C'est un problème, mais il le dit.
Une question sur le Rassemblement national qui, lui, regarde passer les balles et les trains. Disent les jeunes, ils sont plus dans le game, là.
C'est l'avantage de la chose, parce que le gouvernement Bayrou a deux solutions, pour résumer les choses. Soit il obtient la neutralité du RN, soit il obtient la neutralité du PS, ou d'une partie de la gauche. Plus large. Mais il n'y a pas d'autre solution. Il ne va pas gouverner contre... Parce que Barnier a essayé, il s'est fait renverser. Donc s'il ne veut pas être renversé, il est obligé de faire des concessions à la gauche, donc aux socialistes, en l'occurrence.
Donc il est en train de réussir, Bayrou ?
On verra, c'est pas joué. Enfin, il a quand même fait un effort. On ne peut pas nier, on peut être de mauvaise foi absolue, mais là, ils ont fait un effort pour lâcher des choses. Et sachant quand même la situation, c'est là aussi il y a un problème entre la gauche radicale et la gauche réformiste, c'est que la situation est financière est effectivement grave. Le programme du NFP, il est caduque, ça ne marche plus. Ça. 100 milliards de dépenses supplémentaires, non, pas possible.
C'est même aberrant. N'importe quoi.
Si la gauche arrivait au pouvoir avec ce programme-là, elle ne pourrait pas l'appliquer.
Donc le déficit serait...
Remarquez bien que Macron a fini 300
000 seuls. Elle pourrait l'appliquer en partie, parce qu'en 10 ans, on va augmenter les impôts des riches. Enfin, il y a un moment où on ne peut pas appliquer... une fois qu'on a augmenté l'impôt des riches pour les retraites, on ne peut pas l'augmenter pour autre chose.
De ce point de vue-là, il faut
des priorités.
De ce point de vue-là, il faut se rappeler que l'événement fondateur de ce qui se passe aujourd'hui, pour moi en tout cas, c'est la déclaration commune des syndicats et des organisations patronales pour dire attention, halte là, danger, on ne peut pas continuer comme ça, sinon la France va dans le mur. Et ça détermine beaucoup l'attitude, notamment des socialistes aujourd'hui. Et pas plus tard qu'aujourd'hui ou hier, dans une interview, la directrice, la secrétaire générale de la CFDT expliquait qu'on ne voit pas comment les travailleurs, la gauche,
pourrait refuser d'entrer dans une discussion nouvelle sur la réforme des retraites. Elle ne comprendrait pas. Ça aussi, ça pèse les syndicats que les partis politiques reprochent toujours à Emmanuel Macron.
C'est la position de LFI, refuser de discuter.
Donc, tous les syndicats c'était un message très clair de la CFDT aux partis socialistes.
Enfin, la CGT n'était
pas signataire. La CGT n'était
pas signataire de ce texte. La CGT n'a pas signé ce texte, mais se rendra à cette discussion. Les syndicats, c'est bien normal, c'est leur boulot, ils négocient.
Oui, ça, c'est un rappel utile.
Oui, mais tout à fait. Ce que je voulais juste dire, c'est que l'enjeu pour la gauche, c'est d'arriver à avoir un discours un peu moins défaitiste que le discours d'Olivier Faure. Parce que le discours d'Olivier...
Je vois pas pourquoi il est défaitiste.
Moi, je le prends comme tel.
Pourquoi il est défaitiste?
Je peux m'exprimer. Non, mais oh!
Oui, d'accord.
Alors, je termine ma phrase, d'accord?
Sauf que défaitiste, c'est pas vrai.
Ben moi, je dis que c'est défaitiste parce que quand il dit, quand vous expliquez l'un et l'autre, et ce qui est expliqué tout à fait par Olivier Faure, s'il y a une élection présidentielle, c'est Marine Le Pen, c'est l'extrême droite, excusez-moi, pour moi, c'est un discours totalement défaitiste. Je pense qu'il faut arriver à faire une proposition de gauche qui peut embarquer le pays. Et pour l'instant, ce n'est certainement pas Jean-Luc Mélenchon, mais il n'y a aucune raison, quand on est un parti comme le Parti Socialiste, de se mettre en situation de baisser les bras et de se dire.
Il ne baisse pas les bras, il constate.
Je considère, moi, qu'un discours qui dit on ne vous censurera pas parce que sans ça c'est Marine Le Pen qui prend le pouvoir, pour moi c'est un discours politiquement défaitiste.
Réponse de Laurent.
C'est la constatation du rapport de force actuel.
Bah, il faut transformer.
Ça ne se fait pas en trois semaines. Qu'est-ce qui construit ça? Si vous m'interrompez autant que je vous interromps...
Que vous m'interromps, ça va être compliqué, je suis de vous l'accord.
On est à un point partout, là, ça sert à rien.
Attention.
Donc je continue.
Je vous en prie.
Une explication. Aujourd'hui, les choses étant ce qu'elles sont, tous les sondages mettent Marine Le Pen à 60% contre Mélenchon. Tous. Alors on va dire les sondages, ça ne veut rien dire.
Je suis d'accord.
C'est ce que disent les gens de LFI quand ils sont mauvais. Ils disent ça ne veut rien
dire. Comme
quand
moi.
Quand ils sont bons, ils disent c'est intéressant, regardez le sondage qui vient de sortir.
Non, il y a eu les élections du mois de juillet. Il y a eu les élections de juillet qui ont montré
en fait
que
n'importe quoi
la France ne veut pas de Marine Le Pen à l'instant T. Pour l'instant, les élections de juillet, c'est ça qu'elles ont dit.
Dans une présidentielle, c'est différent.
Oui, mais donc il faut mettre quelqu'un en face. Il faut mettre quelqu'un en face.
Catherine, on laisse finir Laurent.
Entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, je crains que le pays... Parce que, pourquoi? Parce que les électeurs de droite ne voteront pas Mélenchon, ils voteront Marine Le Pen.
Je suis d'accord.
Donc elle va gagner.
Donc le PS doit trouver quelqu'un. Ou le PS et les communistes et les écologistes.
Il vaut mieux laisser les échéances se dérouler normalement. Et à ce moment-là, on pourra
la question
discuter.
N'est pas... Oui, mais les échéances, elles peuvent se dérouler sans que rien ne bouge. Pour l'instant, ils ne bougent pas. Les socialistes, les écologistes et les communistes regardent passer les étoiles.
Ils ont obtenu des concessions réelles.
Oui, mais ils préparent absolument pas une autre solution.
Allez, laisse passer les étoiles.
Moi, je pense que vous êtes d'accord. En fait, l'histoire, c'est une question de temporalité. Effectivement, aujourd'hui, je suis désolé, c'est ce que je disais tout à l'heure. S'il y a des élections anticipées maintenant, j'insiste, il y a une majorité de Français qui ne veulent pas que Marine Le Pen arrive au pouvoir. On l'a vu au moment des législatives avec la victoire, le vrai parti qui a gagné les élections législatives l'année dernière, c'est le Front républicain. C'est clair. Il y a eu 17 millions d'électeurs qui ont fait un choix et qui ont choisi de ne pas mettre le Rassemblement national en responsabilité.
Mais ils n'ont pas dit qui devait gouverner.
Mais, voilà. Alors, l'autre problème, c'est qu'aujourd'hui, quand ce rejet de Marine Le Pen existe, mais la détestation et le rejet de Jean-Luc Mélenchon est encore plus fort que le rejet de Marine Le Pen. Donc, encore une fois, si les élections, si on avait une présidentielle aujourd'hui, je pense que la plus forte probabilité, c'est que si on se retrouve avec un deuxième tour, ce que je disais tout à l'heure, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, je pense que Marine Le Pen gagne. Pour moi, c'est clair. Et c'est ce que dit Olivier Faure. Mais quand vous dites, en fait, il faut construire quelque chose, mais c'est une question de temporalité.
Mais ils font quoi, là?
Si les élections présidentielles
se déroulent
selon le calendrier normal, ça se passe en 2027. 2027, il y a une trentaine de mois, vous pouvez construire autre chose. Et c'est ça qu'essaye de faire moi, c'est ce que je comprends, en tout cas. Je pense que c'est ça que veut faire essayer de faire le Parti Socialiste.
Stéphane, je vais dire autrement ce que dit Catherine. Je vais le dire autrement, peut-être que...
Moins bien. Vous allez dire mieux.
Au fond, ce que dit Catherine, c'est que c'est un reproche très fort adressé aux socialistes sur le thème « vous ne travaillez pas ». vous ne réfléchissez pas à la France de demain. Et ça, c'est vrai. C'est vrai.
Ils n'ont pas eu le temps.
Ils sont
avec
dans les
Mélenchon.
Réflexes anciens et dans les demandes anciennes qui ne tiennent pas compte de l'évolution des choses et de l'évolution du pays.
Jean-Marie, je voudrais vous vouliez. Il y a une phrase qui vous a frappé, c'est celle de Marine Le Pen. Parce qu'aujourd'hui avait lieu la cérémonie à l'église pour la mémoire de Jean-Marie Le Pen. Donc toute la famille et les proches étaient réunis à l'église du Val-de-Grâce. Et vous avez été frappé par cette petite phrase de Marine Le Pen au JDD la semaine dernière. Je ne me pardonnerai jamais d'avoir exclu mon père du parti.
Oui, j'étais frappé de cette petite phrase parce qu'elle conduit à annuler, en fait, ce que la presse appelle, parfois complaisamment, la dédiabolisation. C'est-à-dire que Marine Le Pen, réagissant à des propos à nouveau abjects de Jean-Marie Le Pen, notamment visant... visant le chanteur
Patrick Bruel.
Ah oui. Pardon. qui avait, en parlant de Fournet, ainsi de suite. Bon, recommençait ses diatribes habituelles, ainsi de suite. On se disait, là, Marine Le Pen réagit parce qu'elle a compris que c'était essentiel et que c'était intolérable de parler de cette façon. Bon. Sauf que maintenant, elle l'annule, de fait, en disant « Je ne me pardonne pas d'avoir exclu Jean-Marie Le Pen » et elle l'avait exclu pour ses raisons. Donc, si elle ne se pardonne pas de l'avoir exclue, notamment pour ces raisons, il faut
cesser... Est-ce que ce n'est pas une phrase prononcée sous le coup de l'émotion de sa mort ?
Il faut se rappeler que Marine Le Pen porte un héritage politique daté, historiquement daté, historiquement pratiqué d'ailleurs dans le pays, en France, et que c'est de cela qu'il est question et de cela qu'il sera toujours question tant que Marine Le Pen dirigera ce parti. C'est ça qu'il faut regarder en face, me semble-t-il. Alors que tout le monde va, enfin beaucoup vont passer ça sous silence parce que évidemment ça fait tâche par rapport. Et par ailleurs, relié à ce mouvement de Marine Le Pen, qui est quand même très surprenant, en regardant les débats à l'Assemblée et après le discours de politique générale du Premier ministre, j'étais frappé aussi par le degré de haine qui s'exprimait à travers le porte-parole du Rassemblement national à la tribune de l'Assemblée nationale. Mais de haine avec le vocabulaire, qui était le vocabulaire vraiment de l'extrême droite, la plus extrême droite, alors que c'est un parti, le Rassemblement national, qui prétend corriger les journalistes quand les journalistes disent « vous êtes l'extrême droite ». Non, il faut écouter ce discours parce que c'est vraiment glaçant.
Un mot.
Je suis entièrement d'accord avec Jean-Marie parce que la manière dont ces obsèques ont été organisées, la manière dont les gens du Rassemblement national ont réagi à cette disparition, je ne pas du tout de s'en féliciter, moi, je ne suis pas pour danser sur les tombes, mais simplement, ils auraient pu dire, écoutez, c'est le fondateur du parti, mais on est en désaccord politique, on a changé, on est différent... sans être insultant à son égard, mais au moins dire clairement, on est différent maintenant, on est plus dans ces folies extrémistes des années 30, tout ça c'est une période révolue, on a tourné une page, etc. Rien du tout. Ouais. C'est un hommage... il y en a certains qui ont dit, oui, c'est vrai, ces déclarations antisémites ne sont pas les nôtres. D'ailleurs, il a été condamné en justice, donc voilà, etc. Il y en a qui ont dit ça. Mais la plupart... on en fait une sorte d'hommage à la fois personnel
à l'homme,
que je ferais pas moi, mais enfin, qu'on peut comprendre éventuellement, mais un hommage politique.
Ouais.
En disant, c'est un prophète, il a vu les choses avant les autres, etc. On ne peut pas dire des choses comme ça sans préciser aussitôt qu'il était pour. Il disait quand même clairement, moi je crois à la hiérarchie des races. Il disait ça. Mm-hmm. Il disait ça devant une caméra, quoi. C'est pas.
Oui, pas de filtre.
Je crois à la hiérarchie des races. Mais alors, Marine Le Pen aussi? Oui ou non? Elle n'a pas dit.
C'est très court. Là, parce que Véronique, non, elle n'aura plus le temps de...
Je crois que les mots ont leur importance. Elle n'a pas dit qu'elle regrettait. Elle dit « je ne me pardonnerai jamais
c'est même
d'avoir
plus fort,
exclu mon père ». Non, mais c'est son père.
Enfin, oui, c'est son père.
Oui.
Mais, les rapports avec son père.
Les deux arguments...
Je ne suis pas sûr qu'on soit dans le registre de la politique.
Oui, mais enfin...
Bon, Véronique Reissoult... Véronique, arrivez. Venez, Véronique, on vous attend.
Plus l'équité, c'est un politique.
Bonjour, mon cher Véronique.
Bonjour.
Alors, on a parlé longtemps du discours de politique générale de François Bayrou. On ne l'a pas détaillé, bien évidemment, ça a duré 1h30. Un peu sur le fond, mais pas trop sur la forme. Qu'est-ce que les Français en retiennent ou en ont pensé?
Alors déjà, dans un premier temps, ils n'en ont pas tant parlé que ça. En tout cas, moins que les autres...
C'est plus vexant.
Moins que les autres discours de politique générale, comme on en a souvent en ce moment, c'est facile de comparer. On n'a pas tellement besoin d'aller loin en arrière. 285 000 messages, pas beaucoup. Et sur ces 285 000 messages, je vous ai sorti les émojis, mais en gros, c'était assez factuel, un peu humoristique, un peu dubitatif. Et ce qui a été retenu, c'est que c'est un discours qui a généré des attentes de solutions concrètes et finalement des envies de projets à peu près clairs et surtout un rejet anticipé des positions dogmatiques des partis.
Que vient faire le drapeau britannique dans votre
Parce
paysage.
Qu'en fait, il y a énormément de comparaisons sur la réalité de la situation aujourd'hui par rapport aux Anglais.
Très bien.
Et France 24 a publié un tweet qui a été pas mal repris, qui reprend un titre de presse qui est « Bayrou, le contorsionniste ». Et finalement, c'est ce qu'ont retenu les Français en disant « ben voilà, c'est un contorsionniste ». Mais c'est pas forcément négatif. Pourquoi c'est pas forcément négatif? Parce qu'en fait, Monsieur Bayrou bénéficie d'une image assez positive dans le fond. Et quand on regarde, on a fait un sondage pour le Figaro qui sort ce soir. Et donc, on voit qu'il a trois points. Alors c'est sur les mesures. Donc voilà. Donc les mesures qui ont été retenues, elles sont plutôt favorables. Vous avez 66% des Français qui sont assez d'accord avec la proportionnelle. En tout cas, la proposition telle qu'elle a été formulée. 60% sur la fameuse banque de la démocratie qui a été évoquée aussi. Et 61% pour que la réforme soit retravaillé sur 3 mois. Seul le projet de rétablir le cumul des mandats est clairement rejeté avec 72% de non favorables. Et le principal sujet autour du discours a bien été la retraite avec méthode, objectif, attendre. En bref, c'était ça le sujet que les Français ont retenu de tout ça. Évidemment, il y a quelques petites blagues. Normal, sur la forme. je vous passe les enfants comparés à des poireaux qui ont bien régalé le web. Et puis, l'histoire des fiches. Mais c'est jamais très méchant, vous voyez. C'est plutôt, mais moi, je ferais ça à l'oral de la Grègue. On me fusille sur place. Lui, il est Premier ministre. Voilà, je vais le tuer parce que, franchement, c'est injuste. Mais globalement, c'est pas si méchant que ça. Et pourquoi c'est pas si méchant? Parce que son image n'est pas si négative que ça. Si vous regardez ces points d'image sur lesquels, dans le sondage, on l'a testé, il est jugé comme sympathique, ayant des conviction profonde et plutôt courageux pour 50%, mais bon, pas trop charismatique non plus, on peut se le dire, parce que vous n'avez que 28% des Français qui trouvent qu'elle est charismatique.
Ouais. Alors je vais faire une transition qui ne va pas aller avec François Bayrou et Brad Pitt dans tout ça.
Alors bon, si, pas tant que ça, vous allez voir, mais Brad Pitt dans tout ça, et bien, écoutez, une émission de télévision ce week-end qui a révélé qu'une femme a témoigné racontant une arnaque dont elle a été la victime. Elle a cru parler avec Brad Pitt et elle lui a versé 830 000 euros, donc tout son argent. Évidemment, dans un premier temps, tout le monde s'est moqué. Voilà, Anne, tu me manques, évidemment. Il y a même des gens qui se sont amusés en disant cette histoire d'arnaque avec un faux Brad Pitt fait que je finis par avoir un doute sur cette relation que j'entretiens depuis des mois avec Margot Robbie. Bref, les uns et les autres se sont moqués. Et quand je dis moqués, c'est plutôt, dans un deuxième temps, un sujet de harcèlement. Cette femme a subi un réel harcèlement, sachant que cette affaire, elle est beaucoup plus complexe qu'elle n'en a l'air. Non, cette dame n'est pas complètement demeurée. Mais la façon dont ça a été présenté fait qu'on se dit, et puis l'histoire fait qu'on se dit qu'elle est forcément idiote. Donc les internautes ont essayé de la défendre, alors soit en disant qu'ils avaient pitié d'elle. Mais tout simplement, c'est un vrai sujet, les arnaques. C'est de plus en plus compliqué. Je vous passe l'histoire. La chaîne de télévision a retiré le reportage des chaînes des plateformes de replay parce que effectivement, elle a subi un harcèlement absolument horrible.
Et tout le monde s'est moqué d'elle, c'est ça.
Tout le monde s'est moqué d'elle et la réalité, c'est que c'est plus complexe que simplement une gourde qui a cru parler à Brad Pitt. Ça a duré des mois, il y a eu des tas de preuves. Enfin voilà, oui, elle a été très crédule, mais c'est le principe des arnaques et il y en a beaucoup sur le net. Donc c'est un sujet important, donc cette vidéo qui rappelle que chaque victime mérite justice et pas jugement n'est pas inutile. Alors évidemment, les internautes se sont amusés, les journalistes se sont amusés. Les dessinateurs se sont amusés et voilà le lien avec Monsieur Bayrou, parce que sachez que Monsieur Bayrou dit qu'on dit de lui qu'il ressemble à Monsieur Richard Gere, donc Coco s'est amusé après la femme escroquée par un faux Brad Pitt. La France est harcelé par un faux Richard Gere. Voilà, et je vous passe parce qu'il y en a eu beaucoup.
Parce qu'un jour, il a dit...
On me compare. On me dit que je ressemble à Richard Gere.
Laurent, c'est peut-être lui-même.
Je ne sais pas. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Déjà, quand il avait été nommé, moi, j'avais été étonnée. J'avais vu des Richard Gere apparaître dans les trending topics. Je me disais pourquoi. Et en fait, c'était déjà ça, la blague. Alors, attention, juste parce que j'ai plus que 30 secondes, je voulais quand même vous dire que les arnaques et les fake news, c'est pas toujours très drôle, mais ça touche toutes les célébrités. Il y en a quelques-unes qui sont graves. Celle-ci est grave, c'est Taylor Swift, que vous reconnaissez évidemment, parce que vous êtes tous des fans. Elle a subi une deep fake où elle aurait dit que les incendies de Los Angeles sont une punition divine en réponse à la position américaine sur Gaza, et elle dénonce le soutien de l'Amérique à Israël. Alors évidemment, c'est une infox. Évidemment, ça a été traduit en arabe. Évidemment, les internautes ont dénoncé, elle-même a dénoncé, mais sachez qu'il y a énormément d'infox de ce type sur le net, mais je n'aurai pas le temps de vous raconter la suite la prochaine fois.
Suite au prochain épisode.
Voilà.
Pour être heureux, vivons cachés.
Oui, enfin, les célébrités, par essence, ils essayent de ne pas être cachés, donc c'est ça qui est compliqué.
Merci Véronique, merci à Flore Simon d'avoir préparé cette émission, merci à toute l'équipe technique.